Bonjour et merci d'être fidèle au grand face-à-face tous les samedis. Le sommaire de l'émission aujourd'hui jusqu'à 13h, la semaine des humoristes de France Inter, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein et puis la révolution digitale en débat tout à l'heure. Le numérique s'est introduit partout, dans tous les aspects de nos vies. Et si nous fabriquons le numérique, il nous fabrique aussi. Alors pourra-t-on éviter l'extension illimitée de ces nouvelles servitudes ? Oui, à condition de forger une culture numérique et de la transmettre, c'est la thèse que défend l'un des meilleurs spécialistes de ces questions. Le sociologue Dominique Cardon dirige le Media Lab de Sciences Po et il publie un livre passionnant, Culture numérique. Rendez-vous avec lui d'ici une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Et avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Avant votre duel, la semaine des humoristes mise en onde par François Audouin. Et cette semaine, l'actualité était marquée évidemment par les manifestations du 1er mai, la fête du travail, mais c'est aussi une tradition florale le 1er mai, et ça a inspiré Nicole Ferroni.
Chaque 1er mai, on est là, le muguet du 1er mai, alors que le monde du travail est changeant et que pourrait donc aussi flexibiliser cette plante du 1er mai. Et donc, pour incarner la fameuse flexi-sécurité, je vous propose désormais 4 nouvelles plantes du 1er mai. Alors d'abord, j'ai pensé à un cactus avec ce petit slogan, le cactus du travail, aïe 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 aïe, puisque le cactus, en plus d'être une plante grasse, qui peut donc symboliser l'engorgement des actionnaires du CAC 40 ayant reçu près de 47 milliards de dividendes l'an passé, est muni de piquants qui peuvent représenter les piquants de la vie liés au travail, comme le burn-out, les maladies professionnelles, le harcèlement moral. Donc, pour le 1er mai, un cactus, c'est assez cohérent. Le problème, c'est que j'ai réfléchi, et les piquants, ça n'est pas vendeur. Du coup, deuxième plante sans piquant, plus vendeuse, et qui ferait une très bonne plante du 1er mai, à savoir la marijuana. Le cannabis, la ganja, le chichon du 1er mai, Rastafari, vive le travail. Alors, vous me direz, mais Ferroni, c'est illégal. Mais justement, quoi de mieux qu'une plante illégale pour incarner le monde du travail en passe de le devenir lui aussi. En effet, dans la dernière réforme du Code du travail, il est prévu un plafonnement des indemnités en cas de licenciement abusif et celui-ci serait contraire au droit européen, charte sociale de 1996, et au droit international, texte 158 de l'OIT, ce qui a déjà poussé 14 cours prud'homales françaises à retoquer cette disposition, comme pour signaler que la nouvelle loi serait, comme la marijuana, complètement hors la loi.
Manifestation sous haute tension à Paris, les autorités avaient annoncé la présence de 2000 black blocs venus de toute l'Europe. Mais pour ceux qui voulaient manifester sans risque, Guillaume Meurice avait trouvé la solution.
Je profite de la présence avec nous de Bernard Thibault, le Mireille Mathieu de la Merguez, hein, comme Charline n'a pas osé vous appeler depuis le début de l'émission, pour vous parler lutte sociale. Alors on connaît plusieurs moyens, il y a bien sûr les pétitions, mais alors ça c'est chiant, il faut lire les textes, puis il faut que Juliette Binoche vous laisse de la place, c'est pas pratique. On peut manifester façon vénézuélienne, mais il faut aimer se faire écraser par des chars et par l'humour de Raquel Garrido. Mais moi j'ai mieux à vous proposer, c'est la start-up WeStand qui propose donc de louer une personne pour aller manifester à votre place. C'est nouveau, ça vient de sortir. Alors c'est formidable, j'ai appelé Grégoire, son créateur, pour qu'il m'explique tout ça. Alors on a un côté avec des gens qui manifestent, mais de chez eux, et d'autres qu'on paye pour manifester, hein. C'est ça Grégoire ?
C'est ça, on peut s'inscrire en tant que messager, donc si on est entrepreneur.
Hein. Donc faut payer en facture quoi.
Ouais, c'est vrai, en fait ils font payer la facture.
Hein. Donc ça va être des messagers auto-entrepreneurs ?
C'est ça, c'est des messagers auto-entrepreneurs.
Vous avez juste ubérisé la CGT ?
On a un peu ubérisé la CGT, ouais.
Et alors Bernard, là, vous êtes tout ? Ben ouais, pendant que vous organisiez la lutte là sur Minitel, hein, 3615 Krasuki, ben il y a les start-upers qui ont bossé. Hein, pendant que vous pleuriez les sandwichs, ben ils ont benchmarké le process, les mecs. Aujourd'hui, on peut organiser un piquet de grève 2.0 et ça crée de l'emploi.
Une manifestation à Paris émaillée de violence entre les forces de l'ordre et les manifestants. Compte rendu de Charline Vanhoenacker.
Avec une journée aux couleurs des black blocs, des gilets, des syndicats, la presse a qualifié ce 1er mai de « noir, jaune, rouge ». C'est précisément les couleurs du drapeau belge. C'est dire si c'était bien parti pour être une vaste blague. Et en effet, alors que le matin, les rues étaient parfumées par les vendeurs de muguet, l'après-midi, c'était un brin tendu. Déjà que les travailleurs et les travailleuses sont sous tension toute l'année et souvent en proie à la violence de l'entreprise, le 1er mai, c'est leur fête et peuvent même pas se détendre. J'ai regardé à la télé hier, même Arlette Chabot, Jean-Michel Apathy, ils étaient perdus dans tout ce foutoir. Ils ont passé l'après-midi à commenter un match de foot avec quatre équipes sur le terrain. À la fin de la manif, la police avait maintenu le calme et les Black Blocs avaient quand même réussi à foutre le bordel. Donc tout le monde a gagné, sauf les travailleurs. D'ailleurs, on dira ce qu'on voudra, mais les seuls qui n'ont pas chômé hier, c'est bien les Black Blocs et les flics. Il y a eu des tas d'interpellations. Il n'y a vraiment qu'à Caracas que ça a été pire que chez nous. Avant le 1er mai, c'était une fête familiale, on venait avec les enfants, les poussettes. Mais maintenant, c'est plus possible. C'est pas tellement que ce soit devenu dangereux d'emmener les enfants, c'est surtout que la poussette est considérée comme une arme par destination. Mais alors, avant d'assommer un policier à coups de poussette, oubliez pas d'abord de faire descendre le mioche qui pionce à l'intérieur.
C'était la semaine des humoristes de France Inter. Le grand face-à-face continue avec le duel.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Avec Natacha Polony et Gilles Finkenstein, et on va commencer avec un presque anniversaire et un bilan.
Je vous protégerai face aux menaces. Je combattrai pour vous contre le mensonge, l'immobilisme, l'inefficacité pour améliorer la vie de chacun. Je respecterai chacune et chacun dans ce qu'il pense. Je rassemblerai et je réconcilierai car je veux l'unité de notre pays.
Le président de la République, tout juste élu le dimanche 7 mai 2017, il prononçait le deuxième discours de sa soirée au Louvre devant une partie de ses sympathisants. 2 ans de quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous venez d'entendre un extrait donc de ce que disait le président élu. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan ou quel premier bilan feriez-vous de ces 2 ans de pouvoir d'Emmanuel Macron, Gilles ?
Alors si je commence, ce qui était frappant quand on reprend le Macron du début, le Macron de l'élection, le Macron que l'on vient d'entendre, c'était un Macron du mouvement. C'était un Macron de l'équilibre, l'équilibre politique entre la gauche et la droite, un équilibre dans la méthode entre l'horizontal et le vertical. C'est un Macron qui avait créé une forme d'espoir chez une partie des Français qui, y compris, avait une certaine fierté du regard qui était porté sur notre pays à l'extérieur, et c'est un Macron qui avait une chance insolente pendant toute la campagne. Et quand on reprend ces différents termes 2 ans après, on voit l'ampleur du changement. Le mouvement s'est peu à peu transformé en un pouvoir qui est de plus en plus bloqué et de plus en plus immobile. L'espoir, de plus en plus, a laissé place à de la déception et à de la colère. L'équilibre initial est devenu un pouvoir vertical et qui s'est déplacé vers la droite. Et comble de malchance, la chance s'est transformée en malchance. Et donc, la France reste un pays dans lequel les choses ne vont pas si mal, y compris quand on compare à nos voisins. Mais la situation du président de la République en 2 ans, c'est quand même profondément sa situation. En tout cas, c'est profondément dégradé.
Natacha.
Le bilan qu'on peut faire, c'est avant tout la question de savoir s'il a tenu cette promesse absolument immense qui était la sienne en 2017 de réconcilier le pays, de rendre aux citoyens une forme de fierté dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils aspirent à faire. Or, on s'aperçoit que, tout simplement, tout cela était extrêmement bien construit, qu'il y avait une forme de sincérité. Simplement, peut-on réellement faire la révolution en étant l'aboutissement de tout un système qui ne fait que s'auto-préserver ? Parce que la réalité du macronisme, c'est surtout le fait qu'il s'agit de faire en sorte que rien ne change. Et pour cela, il faut insuffler du dynamisme, il faut insuffler du volontarisme pour que, à aucun moment, ne soient remises en cause les structures absolues de notre système économique, c'est-à-dire ce libre-échange, cette dérégulation qui se sont mises en place depuis 40 ans. Et pour que tout cela ne soit pas remis en cause, Emmanuel Macron arrive comme celui qui prétend changer. Ça ne pouvait pas marcher, me semble-t-il.
Gilles.
Oui, dans une élection dans laquelle le cœur du sujet était la rupture. Et Emmanuel Macron a réussi à incarner une forme de rupture qui était une rupture politique plus qu'une rupture sur les politiques. C'est-à-dire que c'était davantage sur le style, l'exercice, en tout cas l'exercice supposé du pouvoir, que sur le contenu des politiques publiques. Donc c'est un peu ce que dit Natacha. En même temps, Emmanuel Macron n'a pas, on n'est pas en crise parce que Emmanuel Macron a été élu. Emmanuel Macron a été élu parce que nous étions en crise. Il est aussi le processus de ça. Et je crois en tout cas que ce n'est pas une parenthèse et que la vie politique après Emmanuel
Macron. Qu'est-ce qui n'est pas une parenthèse?
L'ampleur des bouleversements, en tout cas sur la vie publique de l'élection d'Emmanuel Macron, on ne reviendra pas je crois, à ce qu'était le système politique antérieur, et donc c'est un ébranlement qui est un ébranlement profond.
Bien entendu. Simplement, c'est un ébranlement qui peut en préparer d'autres. Et c'est cela qui est profondément dangereux. Oui, il est la conséquence d'une crise. Ce que je trouve le plus intéressant depuis 2 ans, c'est le fait qu'enfin, on s'est rendu compte que la question démocratique et la question économique et sociale étaient intimement liées. Et que les aspirations des citoyens à plus de pouvoir d'achat, plus de justice fiscale, vont de pair avec leur aspiration à être considérés en tant que citoyens, c'est-à-dire à ce qu'il y ait une possibilité pour eux de faire valoir leur volonté, alors qu'ils ont l'impression depuis des années que, quoi qu'ils votent, les politiques suivies seront les mêmes. Tout cela est entré en ébullition depuis 2 ans, et je pense que ce n'est que le début.
Encore un mot, Gilles.
Oui, juste un mot. Je crois que si on fait la leçon 2 ans après, Emmanuel Macron a gagné avec une force de conviction, en voulant présenter une vision. Maintenant, ce qu'il doit apprendre, et ce qu'on doit apprendre, réapprendre collectivement, c'est apprendre à compromettre. Compromettre, ce n'est pas se compromettre. Compromettre, c'est faire des compromis. Compromis avec d'autres, compromis avec les partenaires sociaux, compromis avec éventuellement d'autres forces politiques, mais on n'impose pas seul sa vision quand on a un socle aussi étroit.
Que chacun et chacune, donc, y fasse attention.
Oui.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Deuxième sujet à l'ordre du jour, c'est une proposition qui figure dans le projet du Rassemblement National pour les élections européennes. Alors plus de Frexit, plus de sortie de l'euro, mais la suppression de la Commission européenne. C'est ce que portent Jordan Bardella et la liste RN. Suppression de la Commission européenne au profit du Conseil européen, c'est-à-dire des gouvernements. Que pensez-vous de cette idée, Natacha ?
C'est une idée qui existe depuis longtemps dans différents partis politiques ou dans différents courants de réflexion. Simplement, ça ne se suffit pas à soi-même. C'est-à-dire que le Rassemblement National prenne la Commission comme symbole de ce qui ne fonctionne pas en Europe, certes, et c'est en effet un symbole évident dans la mesure où une partie des peuples européens ont compris que quand on a un Jean-Claude Juncker à la tête de cette instance, c'est-à-dire quelqu'un qui a organisé le système d'optimisation fiscale au Luxembourg, c'est une perte de crédibilité absolue. Mais derrière, c'est une réflexion beaucoup plus large qu'il faut avoir sur l'ensemble des institutions. C'est-à-dire que la question est celle du lien entre des instances non élues et les représentants, les gouvernements qui, eux, ont été élus démocratiquement.
Jean-Claude Juncker a été élu démocratiquement.
Ces différentes strates de ces empilements font que petit à petit, la démocratie s'éloigne des citoyens. Mais ce n'est pas seulement la Commission, c'est la question de la Cour européenne de justice, de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la question du statut de la BCE. Ce sont toutes les institutions européennes qui ont été conçues d'une façon qui les éloignait totalement du vote des citoyens.
Gilles.
Alors, je suis en désaccord sur ce point avec Natacha Polony, ce qui ne surprendra personne. Je pense, c'est un vieux débat là aussi, mais que l'existence de la Commission européenne est absolument indispensable à l'Union européenne. C'est-à-dire, on ne peut pas concevoir une Union qui a en tout cas les pouvoirs qu'elle a aujourd'hui sans avoir une espèce de gouvernement qui assure, qui gère le budget puisqu'il y a un budget européen, qui prépare les textes, qui assure le suivi, qui fait les négociations, etc. Et je suis en désaccord sur un deuxième point, c'est que je pense qu'il n'est pas juste de dire que c'est une institution non élue. Ah, évidemment, elle n'est
non,
pas...
Non, mais les règles ont évolué.
Évidemment, elle n'est pas élue. Mais est-ce qu'il y a un pays dans lequel les citoyens élisent leur gouvernement, puisque c'est un exécutif. Ça n'existe pas. Donc, on fait un très mauvais procès à la Commission. Les membres de la Commission, ils sont désignés par leur gouvernement, qui sont eux-mêmes élus. Ils sont individuellement soumis à une audition extrêmement poussée, que l'on n'a absolument pas dans notre propre pays, devant le Parlement européen. Le président de la Commission européenne, il est lui aussi désigné par le Conseil des chefs d'État et de gouvernement sur la base du vote des élections au Parlement européen et donc sur la base du vote du 26 mai, et il est investi par le Parlement européen. On n'a pas un système aussi démocratique dans notre pays. Donc,
c'est paradoxal.
Mais évidemment.
Non, c'est pour ça que je disais que on ne peut pas parler de ça en parlant simplement de la commission. C'est un ensemble de structures qui aboutissent à ce que des politiques qui sont des politiques liées à la question de l'ouverture, de la libre circulation, des capitaux, des hommes, c'est tout cela qui se construit petit à petit à travers ces instances. Par exemple, la question du rapport à la concurrence. Voyez bien que, certes, les différents commissaires à la concurrence ont été désignés par des gouvernements qui, eux, étaient démocrates. Pratiquement élu. Mais à aucun moment il n'y a eu possibilité de débattre réellement à travers, que ce soit pour les citoyens européens ou même à travers les gouvernements de chaque citoyen pour décider ce qu'on entendait réellement par ce terme concurrence libre et non faussée qui pourtant était dans ce qui devait être la constitution de l'Europe, à savoir le traité constitutionnel.
Gilles, c'est un paradoxe. Là, en l'espèce, c'est pas la commission qui est en cause, ce sont les textes de l'Union européenne.
Pour ça que je vous dis que c'est
plus large. Ce n'est pas la question de son existence, c'est pas la question de sa légitimité. En revanche, on peut, ça c'est le débat public là pour le coup qui me paraît totalement légitime, débattre de l'action de la commission. Toutes les commissions ne font pas, depuis le début de l'histoire de l'Union européenne, ne font pas la même politique. Et donc ça, c'est un objet, évidemment, qui est un objet légitime de débat. Avec un point quand même qui est une constante et qui est un problème, c'est que la Commission européenne, de par sa composition, de par sa logique, expulse de plus en plus le politique. Et ça, c'est un problème.
Passionnant, et on aura l'occasion évidemment d'y revenir. À suivre dans le grand face-à-face, le débat.
France Inter. Le grand face-à-face. Le débat.
La révolution numérique en débat aujourd'hui dans le grand face-à-face. Le monde du numérique nous libère-t-il ou serait-il en fait un nouvel asservissement ? Faut-il enseigner la culture digitale au même titre que les matières fondamentales à l'école, au collège ou au lycée ? Pour en parler, l'un des meilleurs spécialistes du numérique, sociologue, il dirige le Media Lab à Sciences Po. Bonjour Dominique Cardon.
Bonjour.
Vous publiez un livre passionnant, Culture numérique, aux presses de Sciences Po. Livre où l'on apprend énormément de choses et on va en parler sur ce que le numérique fait à nos sociétés et ce que nous faisons avec le numérique, la diversité des usages qu'on a du numérique. D'abord, pour camper le décor, il y a des faux débats. Pour les éviter, dites-nous lesquels.
Oh là, il y a une collection de faux débats avec le numérique. Il y en a un qui serait de dire le numérique serait un autre monde qui se substitue à la vie réelle, alors que les deux sont complètement articulés. Il y a beaucoup de faux débats avec le numérique qui sont liés au déterminisme technologique, c'est-à-dire qu'on pense que c'est le numérique qui produit la société, les fake news ou des événements politiques ou toute une série d'événements qu'on attribue au numérique, alors qu'en fait nous utilisons les opportunités que nous offrent les technologies du web et du numérique, pour faire un certain nombre de choses qui peuvent être pour le meilleur et pour le pire.
Ce qui est intéressant dans votre livre, qui fait plusieurs centaines de pages, c'est que vous démarrez en racontant l'histoire du numérique, parce que le digital a une histoire qu'on ne connaît pas forcément, et c'est une histoire qui se termine, elle n'est pas terminée, mais disons qui va vers quelque chose qui est assez flippant, pour employer un mot facile. Au début, il y a des idéaux, il y a une envie de liberté, il y a à la fin, la servitude et cette idée que finalement on est dans un monde noir.
Effectivement, quand on refait donc l'idée de cet ouvrage, hein, c'est de faire vraiment une sorte de pédagogie de la culture numérique, donc de reprendre les choses depuis le départ. Et c'est vrai quand on part des années 70 et des premières connexions à ce qui s'appelait Internet à l'époque jusqu'au monde d'aujourd'hui, on a l'impression effectivement qu'une sorte d'utopie formidable s'est aujourd'hui assombrie considérablement. Alors il faut faire attention parce que là on fait l'histoire de nos représentations du numérique. Alors le sociologue que je suis et que je reste, ouais, dit mais les années 70, c'est un tout petit groupe d'hommes masculins, blancs, diplômés, américains. Aujourd'hui, le numérique, c'est une véritable démocratisation. Il est dans toutes nos sociétés, il est dans les milieux populaires, il s'est diversifié géographiquement, il est utilisé dans des contextes et des situations que jamais les pionniers d'Internet n'auraient oublié.
Les gourous de l'Internet libre, par exemple, mais oui, il est malgré tout dominé par des personnalités qui sont toujours des mâles occidentaux, blancs, milliardaires, qui n'ont pas la main mise, mais qui ont créé et qui dominent les outils que nous utilisons tous les jours.
Alors c'est pour ça qu'il faut en faire l'histoire, parce que cette histoire, elle pèse toujours sur notre présent, et effectivement, tout un certain nombre de facteurs qui étaient présents en germe dès l'origine du numérique sont toujours là, très présents. On pourrait en souligner plein, mais celui que vous soulignez effectivement sur le caractère absolument masculin des communautés de développeurs reste très impressionnant parmi beaucoup d'autres.
Natacha.
Enfin, ça, c'est sans doute une dimension, mais il me semble que, pour ma part, à la lecture de votre livre, ce que j'ai ressenti, ce n'était pas du tout que le plus grave soit que ce soit des mâles blancs. C'est la question de notre rapport à la technologie, c'est-à-dire le fait que il me semble qu'il ne peut pas y avoir de démocratisation d'un outil dont la plupart des gens ne peuvent absolument pas maîtriser les fonctionnements. Or, quand on vous lit, on découvre le gouffre de notre ignorance sur ces questions-là, sur les choix techniques qui ont été faits. Dans la mesure où nous ne savons même pas comment fonctionnent des algorithmes, pourquoi on a choisi d'aller vers tel ou tel type de solution technique, vous racontez l'histoire des liens hypertextes, l'histoire de tout ce genre de choses qui petit à petit s'est développé et qui modèle notre environnement, nous, citoyens, nous ne pouvons pas le maîtriser tous. Donc, nous sommes asservis, nous sommes totalement aliénés par cet outil. Nous ne pourrons à aucun moment, me semble-t-il, en faire véritablement quelque chose qui soit au service de l'émancipation de chacun.
Je prolonge juste la question d'une formule en reprenant ce que vous dites dans votre livre. Est-ce que le défi qui est devant nous, c'est d'apprendre à décoder le numérique ou est-ce que c'est d'apprendre à coder ?
Dominique Arnaud.
Alors, voilà, on est en plein au cœur de la question. Moi, je suis d'accord avec vous, Natacha Polony. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, là, d'être devant quelque chose qu'on ne contrôle pas et qu'on ne comprend pas. Mais je reste beaucoup plus optimiste. Et dans l'esprit de la tradition du numérique. Le numérique, c'est plastique, ça se bricole, ça se fabrique, ça se code. Et donc, l'ouvrage, il est précisément dans
ça. Ça se comprend.
Et ça se comprend. Ça s'interprète et ça se fabrique. Donc, ma conviction, mais très forte, et ma conviction d'enseignant, hein, c'est qu'il faut apprendre le numérique. C'est qu'il faut pas laisser tomber les bras et se dire, de toute façon, je n'y peux rien, les GAFA me dominent, je suis aliéné, je suis dans un monde où je vais être conduit par les algorithmes, je vais jamais rien y comprendre, et basta. Non, on peut le comprendre, on peut le coder, on peut avoir d'autres pratiques, on peut réflexivement essayer de modifier ses usages, ses centres d'intérêt avec le numérique. Le numérique, vous faites un site web en 2 heures. Hein. Et c'est pas très compliqué. Et donc c'est pour ça que le décoder, c'est aussi apprendre à le coder, à le manipuler. Et ça, on le voit arriver aujourd'hui. Moi, j'en suis très content dans les cours du lycée de façon forte. Il faut qu'on bricole. Il faut arrêter de penser que ces interfaces, on ne peut pas les ouvrir, on ne peut pas les fabriquer, on ne peut pas les remixer, on ne peut pas les adapter. Et dans les usages, on ne cesse de voir cette inventivité de la pratique. Mais quand on est inventif pour faire des bonnes stories sur Instagram, on peut aussi être inventif pour fabriquer du site web, pour fabriquer de la mise en relation, pour fabriquer d'autres choses. Les utilisateurs ne sont pas les naïfs asservis qu'on aime à décrire dans
le plus souvent, malgré tout, la masse, Dominique Cardon, la masse d'entre nous, a un rapport encore magique à ces nouvelles technologies, non seulement aux objets, mais aussi au monde du numérique.
Magique et consumériste, puisque en fait, est fait pour que nous soyons consommateurs de ces outils et non pas acteurs, utilisateurs.
Alors ça là, je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'une partie de l'empire qui s'est mise en place, des empires, ils sont pluriels. Hein. Il faut aussi mettre un peu de dynamique dans ces mouvements des grands opérateurs du web. C'est quand même de pas nous laisser la place d'agir et, en revanche, de faire ce qui était la promesse politique, idéologique, de l'utopie numérique de l'origine, mettre la société en réseau, permettre aux individus de se lier les uns aux autres. Du coup, court-circuiter toute une série d'institutions, de systèmes de représentation, et ça beaucoup, au nom à la fois d'une émancipation et d'une autonomie de l'individu, ce qui est à mon avis la valeur la plus forte du numérique qui l'accompagne, mais aussi évidemment d'un individualisme qui peut être complètement consommatoire, qui est guidé par « je veux le service le plus efficace, je veux trouver quelqu'un qui me rende service, je veux pouvoir échanger ma perceuse contre une échelle, je veux pouvoir trouver une voiture qui me guide à toute vitesse ». Le numérique, il accompagne cette dynamique de l'efficacité individualiste de nos sociétés, et c'est aussi comme ça qu'il est venu s'articuler à nos vies.
On va y venir justement, parce que c'est une dimension qui est essentielle. Mais d'abord, pour répondre à Gilles Finkelstein, il faut apprendre à coder ou à décoder? À l'école, en l'occurrence, est-ce qu'il faut apprendre à maîtriser le langage informatique ou est-ce qu'il faut apprendre aux gamins, aux adolescents, à être conscients, lucides par rapport aux usages qu'on fait d'Internet?
Alors c'est un débat qui anime beaucoup la communauté pédagogique, vous savez, depuis déjà une dizaine d'années. Les informaticiens veulent absolument venir au lycée, avoir un CAPES, ils vont l'avoir, pour enseigner de l'informatique. Et puis les gens de sciences sociales, de sciences humaines, et puis les pédagogues, les éducateurs, ceux qui sont attentifs aussi à l'usage des médias, disent non, il vaut mieux décoder. Moi, je crois qu'il faut faire les deux. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut à la fois coder et décoder. Il y a un petit débat qui est, qu'est-ce que ça veut dire coder ? Coder, ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir développeur et faire du C ou du Python. Mais coder, ça veut dire d'apprendre que le numérique, c'est plastique. C'est quelque chose où on écrit avec du texte dans un langage de programmation. Et écrire ce texte produit un effet qui n'a rien à voir. Comprendre cette articulation nouvelle, cette forme d'écriture, en fait, de savoir, de mise en visibilité de nos sociétés, j'écris du langage, ça produit autre chose, et savoir que du coup, si je modifie le texte que j'ai écrit dans le programme, ça va modifier mon interface, mon écran, ce que je vois, c'est un petit apprentissage qui dédramatise complètement l'idée que les informaticiens maîtrisent le monde et nous imposent leurs règles.
Natacha.
Mais c'est un apprentissage complexe. Et en fait, ce que vous racontez de l'idéal d'Internet des débuts, c'est, est-ce que ce n'est pas totalement une illusion ? J'en prends pour exemple, vous évoquez dans un chapitre Wikipédia, cette question de l'auto-organisation du savoir. Sauf que le Wikipédia a un fonctionnement qui construit une domination des initiés. C'est-à-dire que quand il s'agit de partager le savoir sur des choses universelles, et sur lesquelles nous avons un certain recul, tout va bien. Les pages sur, par exemple, tel peintre ou tel fait historique, a priori, ça
Paris,
peut aller.
Par exemple, ou violer le duc.
Alors justement, non, là je pense que comme ce n'est plus tout à fait éloigné de nous, ça va devenir polémique. Mais des pages qui concernent des domaines où l'idéologie entre en compte, ce qui est frappant, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, ce sont ceux qui dominent l'outil qui peuvent imposer leur idéologie. C'est-à-dire que dans les guerres d'édition, celui qui sait comment fonctionnent les Wikipédia, qui sait comment faire en sorte que telle référence apparaisse plus que telle autre, il peut imposer aux autres ce qu'il croit juste et bon. Donc l'auto-organisation, ça ne fonctionne pas tout à fait.
Alors, Dominique Cardon.
L'auto-organisation, mais ça a été observé dans toutes les assemblées libertaires et anarchistes, c'est qu'il y a un moment où on met des règles et des procédures, et les procédures empilent sur les procédures et fabriquent des petites bureaucraties internes, en fait, dans lesquelles, je ne dirais pas que des gens dominent, mais les méritants ont beaucoup plus de pouvoir sur le système. Et méritant dans les systèmes, et ça, je crois que c'est très très lié à la culture numérique. C'est vraiment une culture du mérite. On ne regarde pas le statut des gens à l'origine, mais en revanche, celui qui a beaucoup contribué à la communauté, donc qui sait très bien comment elle fonctionne, qui a participé à la définition de ses règles, il va acquérir une autorité, un prestige au sein des communautés qui fait que effectivement il peut donner à l'impression
comme un chef de secte
au nouvel entrant que il maîtrise pas les règles et que du coup il lui impose les règles. Alors c'est compliqué, mais ça c'est une des leçons aussi de cette nouvelle forme de l'individualisme en réseau, on pourrait dire, c'est que il faut s'engager, il faut justement participer. Ah. Et est-ce que cette injonction constante qui est un peu l'idéologie du numérique, elle invite aussi chacun à dire Tu dois participer à cet espace si tu veux pouvoir en tenir un tout petit peu les règles et avoir un espace de jeu à l'intérieur.
Précisément, est-ce que ce sont les méritants ou est-ce que ce sont les engagés qui dominent ? Parce que ce ne sont pas nécessairement les mêmes. Est-ce que ce sont les engagés, c'est-à-dire celui qui est l'administrateur du groupe Facebook ? Est-ce que c'est l'engagé parce que dès qu'il y a une modification sur une page Wikipédia, comme l'évoquait Natacha, et bien dans l'heure, c'est le premier qui va faire les modifications ? Est-ce que c'est le méritant ou est-ce que c'est l'engagé ou est-ce que pour vous, l'engagé est nécessairement le méritant ?
Là, vous entrez dans toutes les subtilités qui passionnent le chercheur du web et du numérique, c'est qu'évidemment, dire le numérique, ça n'a aucun sens. C'est plein d'espaces et de plateformes qui ont des formes, des règles, des relations sociales, des sortes de constitutions internes qui sont très différentes. Sur Wikipédia, je vous assure que c'est le mérite. Alors, le mérite est le témoignage d'un engagement dans la communauté très fort, mais c'est le mérite qui fonctionne. On pourrait dire qu'il y a des communautés dans lesquelles effectivement des sortes d'engagés assidus, on pourrait dire, peuvent par une sorte de trolling répété arriver à se constituer un micro-espace de pouvoir à l'intérieur de ces univers et prendre la place des plus méritants.
Natacha.
Je pense quand même que le concept d'engagé implique le fait que ce sont ceux qui ont la volonté justement d'imposer leur vue, qui sont les plus fervents, qui sont présents, ce sont ceux qui ont le temps aussi, et c'est tout le problème de ce monde qui, vous avez tout à fait raison, vous le montrez très bien, est imbriqué avec le monde réel, mais qui tout de même devient dominant par rapport au monde réel. C'est-à-dire, et je, là aussi, je suis frappée par le fonctionnement de Wikipédia qui, à mon avis, montre tout à fait cela. C'est-à-dire que le réel n'existe plus, en fait. Quand vous regardez comment fonctionne Wikipédia, par exemple, si vous essayez de mettre le contenu d'expliquer le contenu d'un livre, on vous dit oui, mais s'il n'y a pas de référence à un texte qui est sur Internet, ce que vous écrivez n'existe même pas. C'est-à-dire, on efface petit à petit tout ce qui est en dehors de ce monde-là. Or, du coup, ça favorise ceux qui sont impliqués dans ce monde, mais le citoyen qui a une vie ailleurs, qui agit ailleurs dans le monde réel, petit à petit se retrouve relégué. Et sans doute, est-ce le danger et ce qu'on appelle aujourd'hui la fracture numérique, c'est peut-être qu'il y a des citoyens qui continuent à vivre dans le réel.
Je complète en disant la même chose, mais sur un exemple inverse, c'est non pas quelque chose qui n'a pas de référence, et donc ce qu'on ne peut pas citer, mais une référence qui est citée, et qui est citée régulièrement, qui est réutilisée, mais qui est fausse. Exemple personnel, pendant un moment, sur ma page Wikipédia, j'avais fait l'ENA. Sujet d'actualité. Or, je n'ai pas fait l'ENA. Et donc, je supprime cette référence, elle revient, un engagé, plus qu'un méritant, en l'occurrence, la remet. Il y a donc une bataille d'une grande importance pour savoir si j'ai fait l'ENA.
Donc, vous avez fait l'ENA.
Ou pas. Bon. Et je finis par avoir un modérateur de Wikipédia, à qui j'explique que je n'ai pas fait l'ENA. Il me dit, mais c'est ennuyeux parce qu'il y a plein de références. Je dis, bah oui, il y a plein de références parce que c'était dans Wikipédia et donc ça a été repris sur d'autres, hein. Et donc, et il me dit, comment vous allez faire pour me prouver que vous n'avez pas fait l'ENA? Je peux assez facilement vous prouver ce que j'ai fait, mais ce que je n'ai pas fait, c'est beaucoup plus difficile. Donc, j'ai fini par obtenir gain de cause. Mais ce lien entre les références qu'évoquait Natacha et ce qu'il y a dans Wikipédia, c'est un intéressant exemple de fonctionnement ou de dysfonctionnement du web en général et de Wikipédia en particulier.
Dominique Cardon.
Bon, alors c'est merveilleux parce que vous entrez dans ce que moi j'essaye d'inviter à faire avec cette idée de la pédagogie de la culture numérique, c'est vraiment d'entrer dans les formes spécifiques que font le web. Bon, Wikipédia, ça montre très particulier. C'est une encyclopédie qu'on appelle de second rang. Elle ne produit pas de contenu original. Pour valider la discussion qu'ont entre les Wikipédiens, il faut qu'il y ait une source externe. Elle ne produit pas d'originalité. C'est sa fonction, c'est de faire la synthèse de savoir existant. Et donc, on a besoin qu'il y ait un lien à l'extérieur de Wikipédia pour arriver à valider une connaissance qui est apportée.
Alors, vous avez mais à l'extérieur, mais sur le web. Pas à l'extérieur dans le monde réel. C'est
l'extérieur, mais sur le web. Mais ne pensez pas que dans le monde réel, il n'y ait pas dans des ouvrages de papier bien tangible, plein d'erreurs d'informations qui puissent ensuite être transportées. Donc votre aventure est arrivée à Philippe Ross, vous savez, c'est une des grandes histoires de Wikipédia. Il est venu contester l'interprétation biographique qui avait été faite de la contre-vie sur Wikipédia. Les wikipédistes lui ont dit non, vous avez tort parce que c'est sur Wikipédia. Il dit, mais écoutez, je suis Philippe Ross, donc je vous dis que ça ne m'est pas arrivé. Et alors, les gens de Wikipédia, il l'a fait avec bon esprit. C'est ça aussi, l'esprit il a été écrire un post de blog pour expliquer l'élément biographique qui ne correspondait pas à ce qui avait été interprété sur la contre-vie dans Wikipédia. Donc c'est une nouvelle dynamique. Mais sur l'articulation entre le monde réel et le monde numérique, quand même, la grande transformation depuis l'histoire, c'est que les pionniers avaient pensé séparer le monde numérique comme un espace justement d'égalité des chances. C'est-à-dire on oublie les statuts des gens et puis on refabrique une société dans laquelle les plus méritants, les plus engagés dans la communauté vont pouvoir faire exister de nouvelles formes de visibilité, de nouvelles thématiques et puis de nouvelles trajectoires d'individus dans cet espace. Aujourd'hui, le web et le monde réel est si collé que les autorités sur le web, et on le voit beaucoup dans le monde des médias par exemple, c'est les autorités qui dans le monde réel ont elles-mêmes acquise beaucoup de pouvoir, de visibilité, de notoriété, de capital politique ou de capital symbolique dans les espaces sociaux.
Vous en êtes sûr de ça?
Oh, c'est quand même grandement ce qu'on observe, en tout cas dans la plupart des
il y a une telle défiance par rapport aux grands médias, par exemple, ceux qui dominent le monde réel, pour le dire rapidement, qu'on peut en douter justement.
Oui, bon, je vois bien le débat, mais en tout cas pour la France, on le voit clairement. Alors, je sais qu'il y a tout le débat sur les fake news, etc., cette affaire. Mais si vous êtes un tout petit producteur de messages et d'informations et que vous n'avez pas une forme de visibilité ou d'autorité très forte, il est quand même très difficile de les amener dans le centre du web. Hein. Le web est pas du tout un truc plat. C'est mon grande affaire, c'est que il y a des espaces à très très haute notoriété et visibilité qui sont centraux sur le web. faible. Et puis, il y a plein de caves, hein, et dans lesquelles circulent plein de choses. Mais ceux qui font circuler dans les caves ne gagnent pas aussi immédiatement que on l'entend dans certains discours actuels de la visibilité.
À ceci près, et c'est sans doute ça qui est très intéressant, que le web crée des espaces d'organisation à part qui permettent à des gens qui ne se seraient jamais parlé de pouvoir construire un débat politique. Et c'est l'organisation des groupes Facebook des Gilets jaunes a montré comment tout à coup surgissait ce genre de phénomène, mais en fait c'est très ancien, parce que moi je pourrais vous citer les groupes de professeurs qui se sont mis à se parler au tout début des années 2000. Des gens qui étaient dans la France entière, qui étaient désespérés par les réformes, notamment à l'époque de Claude Allègre. Et en 2000-2001, ils forment ce groupe qui s'appelait Sauver les Lettres. C'est-à-dire des gens qui, tout à coup, grâce à cet outil-là, pouvaient enfin faire valoir qu'ils n'étaient pas seuls. Et ça a bouleversé la vision politique qu'on pouvait avoir de l'éducation. C'était assez intéressant.
Alors, avec le point, Gilles, et donc maintenant le contrepoint, Natacha développe l'élément positif de cette mise en réseau. Un des éléments potentiellement négatifs que l'on a vu émerger, notamment à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes et du nouvel algorithme de Facebook, est une espèce de bulle informationnelle dans laquelle ceux qui étaient sur ces groupes Facebook, donc qui avaient ce réseau avec la dimension positive qu'évoquait Natacha, ne voyaient plus ce qui se passait à l'extérieur et sur Facebook, qui était leur principal, qui est leur principal moyen d'information, non seulement le reste de l'actualité avait disparu, mais la seule information sur le mouvement des Gilets jaunes était celle des groupes Facebook.
Dominique Cardon.
c'est formidable cette discussion, parce que on entre aussi dans la culture numérique avec ça. Bon, avec le web, des gens peuvent se parler entre eux. Et donc les professeurs peuvent discuter entre eux, des groupes peuvent se former, des expressions peuvent se faire.
Et vous prenez des tas de cas différents.
Et ça, toute l'histoire du numérique a apporté ça à la société. Et soutenir que c'est problématique me semble difficile. C'est-à-dire que c'est quand même un instrument d'émancipation et de libération, je crois, formidable sous cet aspect.
Alors, sous
Mais
cet
évidemment,
aspect, justement,
cette liberté peut devenir parfois problématique. Elle peut s'accrocher à des usages ou des pratiques sociales, ou découvrir que dans nos sociétés, il y a des choses qui ne sont pas forcément très désirables. Et ça s'accroche à cette chose qui est produite par les plateformes, c'est qu'elles font une architecture des interactions entre les personnes. Alors Facebook a fabriqué une architecture pour que les gens se parlent entre eux. Et ça, il faut toujours le redire, parce que les médias ont toujours tendance à penser que Facebook a été inventé pour que les gens lisent de l'information sur les médias. Non! Facebook a été inventé pour que les gens fassent des groupes et discutent entre eux. Quand ils discutent entre eux, de temps en temps, ils ont des liens d'information. Et c'est vrai que, et là, il y a un débat sur lequel il faut être très vigilant, me semble-t-il. Facebook manipule son algorithme régulièrement. L'algorithme était autrefois fermé vers les proches pour discuter, puis ils l'ont ouvert pour capturer notre attention et valider leur modèle publicitaire, avec des liens de médias et puis de médias parfois très pourris. C'est comme ça que les fake news sont entrés dans Facebook massivement. Suite à la crise post-élection de Trump, Facebook a refermé son algorithme. Oui. Et du coup, on a l'impression que des gens qui étaient en train de discuter entre eux, mais qui ont vu arriver les médias dans leur fil d'actualité, tout d'un coup, c'est refermé. On a l'impression que c'est à cause du réglage qu'on a fabriqué une bulle de circulation et d'espace dans lequel un mouvement social s'est effectivement exprimé, avec un accès plus restreint à travers Facebook. Et là, encore une fois, c'est le sociologue qui parle. Les gens n'utilisent pas que Facebook. Hein, on a toujours l'impression comme ça que les gens ne regardent plus la télé, qu'ils n'écoutent plus la radio, qu'ils ne sont pas en train de naviguer sur d'autres sites du web. À travers Facebook, leur accès à l'information a été limité à ceux qui sont venus se glisser dans les groupes des Gilets jaunes.
Tout le paradoxe, me semble-t-il, c'est que cet espace qui est en train de se créer, qui apporte, vous le montrez très bien, de la démocratie, du débat démocratique, de la discussion. En fait, il fonctionne de telle façon que c'est comme si nous n'avions aucune maîtrise de la Constitution. C'est-à-dire, nous avons ce qui est supposé être une démocratie, mais la Constitution ne nous appartient pas. Elle n'a pas été décidée entre les citoyens. Et du coup, elle est au contraire dans les mains de puissances qui sont des puissances d'argent, qui sont des puissances qui ont besoin d'utiliser tout cela pour nous extorquer rétorquer ce qui va leur rapporter. Et d'ailleurs, vous avez tout à fait raison de souligner la question de l'attention. C'est-à-dire que c'est notre temps de cerveau disponible qui, aujourd'hui, crée la donnée. Donc la question, c'est est-ce qu'il faudrait, par exemple, comme le, je sais pas, c'est Gaspard Koenig est un fervent défenseur de cela, revoir le principe de possession de nos données, est-ce que cela permettrait réellement de modifier ce rapport de force et d'insuffler ce qui pourrait être de la démocratie?
Alors, sur le premier point, moi je suis entièrement d'accord avec vous. C'est-à-dire que justement la culture numérique, c'est donner un peu de levier aux gens pour qu'ils soient attentifs aux formes de constitution que leur imposent les infrastructures des plateformes sans qu'ils y soient attentifs et sans qu'on se rende compte des effets et des conséquences que ça a. Donc avoir de la culture numérique, c'est se mettre dans une position un petit peu plus forte de négociation avec eux. La solution Gaspard Koenig, c'est un vieux débat. Les libéraux soutiennent depuis très longtemps que la donnée devrait être un bien que par contrat on puisse échanger et vendre. Ça va contre toute la tradition des juristes et de la tradition européenne du droit des données. Je pense que c'est assez vain de défendre cette idée.
Vraiment ?
Oui, parce que bon, c'est une solution d'ailleurs qui court.
Parce qu'on peut vous répondre au nom de quoi une entreprise privée posséderait mes données les plus personnelles ?
Alors, ce qu'il faut avoir, c'est tous les droits qui sont accordés depuis Informatique et Liberté, mais très fortement renforcés par le RGPD. C'est un droit qu'elles ne leur appartiennent pas complètement.
Le RGPD, le Règlement Général sur la Propriété des Données de l'Union Européenne.
Voilà, un événement important dans la régulation du numérique. Un droit de visibilité, un droit de acceptation, un droit de portabilité de
voilà,
ces données.
Voilà, juste pour que tout le monde comprenne, ce règlement, il demande aux plateformes d'assurer que les données puissent être portées, on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que les utilisateurs doivent pouvoir, dès qu'ils le souhaitent, récupérer leurs données de la plateforme A, par exemple, Facebook, et les donner à la plateforme B, je ne sais pas quel autre site, mais admettons Snapchat, par exemple.
Absolument. C'est une des choses qui est présente dans le règlement. L'idée d'en faire une sorte de propriété individuel, ça oublie d'abord le caractère collectif de nos données personnelles, mais ce qui est un débat très important, c'est que la plupart de ces données, c'est des données c'est mes amis, mais mes amis, c'est moi, c'est pas moi. En fait, la donnée, c'est l'interaction. Et ça, c'est toujours ça qu'il faut entendre. Et puis, ça laisse entendre. Et c'est au cœur de l'économie des plateformes. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est abordé dans l'ouvrage. C'est que, en fait, la valeur. On dit toujours, il y a de la valeur dans les données. Et puis, on dit, s'il y a de la valeur dans les données, rendons-la aux individus, puis ils vont la vendre. Mais là, on fait comme si le tout était la somme des parties. Or, le tout est beaucoup plus. J'ai des données, mais mes données ne prennent de la valeur que quand elles ont été agrégées par les big data.
Voilà. C'est la seule ne valent rien.
Statistique. Collectif qui transforme, mais qui presque un mécanisme de transsubstantiation, on pourrait dire, qui fait que quelque chose qui ne vaut rien individuellement a beaucoup de valeur statistiquement pour ensuite produire le guidage de l'attention. Mais on pourrait très bien, et ça c'est aussi un de mes soucis critiques, c'est on peut très bien programmer les algorithmes autrement. On peut très bien dire, c'est pas l'attention.
C'est Mark Zuckerberg, il n'a pas forcément intérêt à le faire. Voilà, lui, son intérêt, c'est au contraire de posséder le plus grand nombre de données, de les agglomérer et d'en faire un usage qui le rendra immensément riche.
Ils sont soumis à des intérêts extrêmement multiples. Et si nous, sociétés, associations, militants, groupes de hackers, collectifs, on exprime l'idée qu'on est mal calculé et que nous voudrions être calculés autrement, on fabrique.
Que nous sommes mal calculés, c'est-à-dire
Nous sommes calculés sur l'attention immédiate qui nous fait voir des vidéos idiotes qui font rire et qui s'enfilent les unes après les autres sur l'algorithme de recommandation de YouTube. Il calcule très mal parce qu'il est orienté vers l'attention des gens et que du coup, on peut faire défiler des vidéos absolument idiotes. On peut très bien demander au système de recommandation, ce que fait d'ailleurs en partie YouTube. Et il faut faire attention avec ces plateformes parce que si on les fiche complètement dans l'idée qu'ils font tout uniquement pour leur modèle économique, on rate l'idée que ces plateformes ont d'abord un intérêt, c'est l'utilisateur. Il faut qu'il les garde. C'est une économie de réseau. Et dans une économie de réseau, si on a des utilisateurs suffisamment nombreux, suffisamment intéressés pour que l'algorithme soit réglé sur d'autres principes que cela, il est tout à fait possible qu'elles mettent en place ces systèmes. Et il y a des algorithmes qui nous rendent curieux. Les algorithmes de recommandation musicale, qui sont parmi ceux qui marchent bien, tous ceux qui les utilisent vraiment sont ceux qui aiment vraiment la musique et qui savent vraiment ce que c'est que la curiosité. Parce que dans notre imaginaire un peu libéral, on a l'impression que la curiosité, ce serait le tirage au sort aléatoire. Donne-moi n'importe quelle musique. Non, c'est pas ça la curiosité. La curiosité, c'est voyager dans le voisinage de ses propres centres d'intérêt. Et ça, un algorithme sait le faire. Il sait te dire, je ne te donne pas exactement toujours la même chose de façon redondante, mais je vais voisiner dans la périphérie de tes centres d'intérêt pour que tu ouvres des portes sur d'autres choses. Et on peut le mettre dans une bonne technique calculatoire. Et dans ces cas-là, on produit un effet qui est différent de nous reconduire tout le temps quelque chose parce que l'intérêt commercial du clic y est derrière.
Je trouve que c'est un des aspects les plus passionnants et presque un des fils rouges de votre essai, qui en réalité est un cours et donc on apprend beaucoup de choses, c'est cette idée qu'il n'y a pas de déterminisme et que le web, c'est ce que les hommes en font. Donc il y a ce type d'usage avec des découvertes que l'on fait grâce aux algorithmes et grâce à certains sites, mais la mécanique utilisant le fonctionnement de notre cerveau, de la plupart des algorithmes qui sont là pour, vous avez utilisé l'expression tout à l'heure, capturer notre attention, c'est-à-dire que l'on reste le plus longtemps possible pour emmagasiner le maximum de données, nous envoyer la bonne publicité au bon moment, repose sur quelque chose de très pernicieux qui est, vous avez évoqué juste le mot comme ça, qui est l'aléatoire. Bruno Patino, dans un autre petit livre qui est sorti sur le même sujet, raconte une expérience qui est absolument passionnante parce qu'elle illustre ça. C'est l'expérience de, à partir d'animaux, vous avez une souris, quand elle appuie sur un bouton, elle a de la nourriture. Donc au début, elle appuie, et puis au bout d'un moment, elle comprend très bien le mécanisme, et donc elle appuie quand elle a faim. Et à un moment, on modifie quand elle appuie, de temps en temps, elle en a un peu, de temps en temps, elle n'en a pas du tout, de temps en temps, elle en a énormément. Que fait la souris? Eh bien, elle appuie comme une folle, même si elle n'a plus faim, parce qu'elle est face à l'aléatoire. Et
c'est logique.
Exactement le... Non, c'est pas logique.
Moi, je ferais la même chose.
Sauf que peut-être qu'à un moment, quand vous n'avez plus faim, vous arrêterez d'appuyer. La souris, non. Et nous fonctionnement, notre cerveau fonctionne comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a ces vidéos qui sont aléatoires, de temps en temps, qui n'ont aucun intérêt, mais on va regarder quelle est la vidéo d'après. Et ça, c'est le côté pernicieux de cette capture de l'attention.
Dominique Cardon.
Oui, alors...
On est des souris. Vous nous dites qu'on peut s'émanciper, mais en vérité, on est dans la situation de la souris le plus souvent.
Bon, là, on entrerait dans un grand débat avec nos amis de la psychologie cognitive et des biais cognitifs, parce qu'ils décrivent évidemment des comportements qui sont très justes, mais ils nous mettent dans des laboratoires, dans des situations expérimentales. Moi, j'ai pas envie que nous soyons des souris numériques, ça, très clairement. Et je reste confiant, non pas dans l'idée que c'est nous qui fabriquons le web, c'est un couplage entre des intérêts, des technologues, des ambitions politiques, et nos sociétés, les utilisateurs, les organisations, etc. Et ce couplage, on déforme, on fait bouger les systèmes. Donc moi, je reste confiant dans l'idée que nous ne sommes pas simplement nos faiblesses cognitives, dont on sait, les psychologues nous le montrent, qu'elles sont nombreuses et importantes, mais qu'on peut aussi avoir des formes de réflexivité. C'est-à-dire, on se rend compte qu'on est soumis à un certain nombre de déterminations et de biais de sélection cognitive, auxquels... En étant conscient de ces biais, on peut apporter des solutions ou trouver d'autres intérêts et d'autres plateformes qui nous aident à déplacer nos usages vers d'autres pratiques et d'autres services que ceux qui ne respectent pas ou qui nous considèrent comme des souris.
Natacha.
Oui, mais ça nécessite, d'ailleurs vous le dites tout au long de votre travail, et ça nécessite de l'éducation. C'est-à-dire que la véritable démocratie, la véritable émancipation nécessite d'avoir les outils pour s'émanciper. Et c'est là qu'on passe, la psychologie cognitive c'est très bien, mais il y a aussi l'économie et la politique. Or, si on regarde la façon dont petit à petit une nouvelle technique arrive, regardons la télévision, au départ... Elle est un outil pédagogique et elle est utilisée comme telle. À partir du moment où on décide qu'elle doit être un outil commercial, c'est-à-dire à partir du moment où on décide qu'elle va vivre de la publicité, qu'elle va vivre selon un rythme qui est un rythme capitaliste, elle change du tout au tout. Et donc c'est la nature même des programmes qui évolue. Et là, c'est un peu la même chose. À partir du moment où on décide que des multinationales qui sont plus puissantes que des États possèdent les tuyaux et possèdent le fonctionnement, ça veut dire qu'il n'y a plus à l'intérieur de ce système les outils d'éducation.
Dominique Cardon.
Alors, vous avez raison, et ça, moi, je crois, et je le souligne aussi dans le livre, que ça produit de l'inégalité, parce qu'effectivement, ceux qui sont capables d'avoir ces usages plus réflexifs sont, dans nos sociétés, inégalement distribués, et que du coup, ça risque vraiment de faire d'ajouter une fracture numérique qui renforce et étire des fractures que nos sociétés ne cessent, en réalité, de produire. Alors, du coup, il y a ces intérêts commerciaux et fort sur le web. Et là, il y a un débat, moi, qu'on qu'on voit arriver de façon très très forte, c'est qu'une partie, mais une partie seulement, hein, de l'économie du numérique s'est appuyée sur le modèle publicitaire. Le modèle publicitaire, c'est celui qui est prédateur sur les données, c'est celui qui s'occupe de notre attention, et c'est le problème.
Et c'est celui qui est le plus répandu, en vérité, sur le web.
Mais c'est pas celui d'Amazon, c'est pas celui d'Amazon, c'est pas celui d'Apple, c'est pas celui de plein d'entreprises du numérique, hein, c'est pas celui d'Uber non plus, hein. Le modèle publicitaire, c'est celui de Google et de Facebook, qui ont aspiré, hein, la quasi-totalité, en fait, des investissements publicitaires sur le web. Bon, c'est un vrai problème. Et je pense que une des choses auxquelles on doit désormais être de plus en plus attentif, et les débuts de régulation qui viennent de la Commission européenne, du RGPD et d'autres éléments de cet ordre-là, c'est qu'il faut que les plateformes Google et Facebook se désintoxiquent du modèle publicitaire, qu'ils trouvent d'autres modèles de revenus. Il y en a d'autres. Là aussi, il y a une pluralité dans les GAFA. On dit GAFA comme si c'était les mêmes modèles économiques. C'est pas du tout les mêmes modèles économiques. Ils n'ont pas les mêmes intérêts dans l'affaire.
L'émission va bientôt se terminer. J'aimerais quand même que vous débattiez, et notamment avec Natacha, qui est spécialiste de l'éducation, au collège, au lycée. Est-ce qu'il faudrait que la culture numérique, le codage ou le décodage deviennent une discipline à part entière, une matière comme les maths, l'histoire géo par exemple, ou est-ce que ça doit être une langue vivante par exemple?
C'est en train d'arriver, hein, dans les programmes de seconde, donc désormais, alors je sais plus combien d'heures, mais je crois 3 heures par semaine, je vais pas me prononcer. Les lycéens vont faire de la technologie informatique, je crois que c'est ça le terme qui a été retenu, dans lequel ils vont mettre un petit peu de technologie, beaucoup d'informatique au sens de la logique informatique. Vous savez que l'informatique, c'est d'abord en fait l'algorithmique, hein, de la logique, un petit peu de codage et puis de la compréhension des enjeux numériques. Moi, c'était précédemment dans les programmes, hein, on voit que l'informatique, elle vient et elle sort des programmes. Moi, je suis très attentif au fait qu'il faut pas simplement faire du codage informatique, mais qu'il faut vraiment y associer tous ces enjeux dont on a parlé, de culture numérique et puis de bidouille. Parce que
de bidouille.
L'informatique, c'est aussi de la bidouille. On sait pas bien coder, mais en revanche, on sait copier du code d'un autre, on sait faire des petits scripts, on sait ne pas être complètement passif face à ces écrans lisses.
Il y a une guerre, en fait, au sein de l'école. Une guerre qui est à la fois pédagogique et une guerre, là aussi, commerciale. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui défendent ce que vous prônez, c'est-à-dire la capacité à donner des outils. Ça existe, en effet, on s'est amélioré. Au collège, il y a un brevet informatique, etc. Mais il y a aussi ceux qui sont pour le fait de faire entrer les tablettes, les outils numériques, pour les utiliser comme en tant que consommateurs de pédagogie. Et là, l'Éducation nationale a signé des partenariats énormes avec notamment Microsoft, c'est-à-dire qu'on fait rentrer dans la bergerie de l'école le loup qui a intérêt à ce que nous ne soyons pas émancipés vis-à-vis de ces outils. C'est un paradoxe énorme.
J'ajoute une autre question, c'est est-ce que l'on a les ressources humaines pour faire ça? Parce que ce qui est fascinant avec le numérique, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ça inverse la chaîne de la transmission des savoirs. De plus en plus, ce sont les jeunes qui apprennent aux générations qui les ont précédés à se servir du numérique par rapport à ce qu'est toute la chaîne de la transmission qui était dans l'autre sens. Donc, est-ce que l'on a les ressources humaines pour faire cet enseignement?
Dominique Cardon.
Alors, c'est deux questions importantes. Sur la première, vous avez raison, il faut être très très vigilant là-dessus. J'espère que le ministère l'est, mais les grandes compagnies viennent comme des dealers, hein, dans les collèges et les lycées pour préparer ces outils. Ceci étant, là je dis ça en pédagogue et attentif à toutes les démarches pédagogiques, amener des outils numériques dans une classe, ça ne transforme pas la pédagogie. Mais en revanche, une bonne transformation de la pédagogie qui sait utiliser les tablettes, etc., peut faire des choses assez formidables. Alors,
pour terminer,
c'est vrai qu'il y a quelque chose de compliqué, et là aussi c'est le ministère qui va se trouver en difficulté pour trouver les bons profs pour le faire. Mais je voudrais redire quelque chose.
Il y en a pas beaucoup, et en l'occurrence vous êtes l'un des seuls à connaître aussi bien la culture numérique en France, Dominique Cardon.
Alors ne dites surtout pas ça. Voilà, c'est ça le.
Non mais c'est un constat et c'est vrai.
Mais le problème avec le numérique, c'est que tout le monde se laisse intimider parce qu'on a l'impression que c'est informatique, qu'on n'y comprend rien. C'est pas vrai. Il y a plein d'éducateurs, il y a plein d'associations, il y a plein de gens qui ont une pratique du numérique qui est suffisamment importante pour arriver à faire ce premier pli de décodage. Il ne s'agit pas d'entrer dans des systèmes extrêmement complexes de déploiement
dans
logiciel.
La matrice.
Il s'agit d'être curieux, de ces choses-là. Et cette curiosité du numérique, elle augmente. Et moi, je voudrais qu'elle se développe et qu'elle devienne une éducation dans laquelle on code et on décode.
Bah, écoutez, c'est passionnant en tout cas. Et puis, on va rester sur cette tonalité optimiste. Donc, on pourrait peut-être un jour s'émanciper collectivement.
S'émanciper. Je suis pas naïf non plus. Hein. Je pense qu'on peut avoir un levier pour bouger un tout petit peu le rapport de force. Vous savez, ces choses-là, c'est que dès qu'on est un petit peu moins impressionné par tout ce qui nous tombe du ciel comme ça, on voit les choses différemment, et voyant les choses différemment, on ouvre des possibles.
Et puis, il y a aussi la servitude volontaire, mais ce serait un autre débat, pour le coup, qui est réel, la servitude volontaire.
Ça, c'est pour les souris.
C'est vrai, c'est pour moi. Une souris qui aime les vidéos de ratons laveurs, par exemple, et ça, c'est assez dramatique, puisque du coup, je compte sur des algorithmes pour alimenter ma passion pour ça. Merci Dominique Cardon, Culture numérique est publié aux presses de Sciences Po, et on le recommande chaleureusement. Natacha et Gilles, je vous donne rendez-vous samedi prochain à la réalisation de l'émission. David Le Prince à la technique, Élise Christophe, et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain midi pour Questions politiques, à suivre sur Inter, les secrets d'info de Jacques Monin.